Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 29. Revigoré par ce week-end auprès de ses proches, Anthony attaqua la semaine avec une volonté et une énergie débordantes. Mais il ne fallut que quelques heures pour user sa motivation et son entrain. La vie parisienne, étrange et maléfique, entama son moral dès qu'il posa le pied sur le quai de la gare de Lyon. Dans le fourmillement des petites mains qui s'affairaient autour de lui, des bagagistes aux chauffeurs de taxi, en passant par les forces de l'ordre aux aguets et les boutiques de restauration rapide, il se sentit étranger. Emporté par le flot de voyageurs sur le parvis de la gare, il vit ces centaines de vélos, de scooters, de voitures au pied des immeubles de verre, aux sigles de grandes banques. Il imagina derrière les vitres des nuées de bureaucrates préparant sur leur ordinateur les tableaux de gestion qui assureraient leurs profits tout en débouchant, ailleurs, loin d'ici, sur des plans de redressement, de licenciement. Chacun faisait de son mieux sans se soucier des autres. Mû par la même énergie positive, la même force de travail, la même bonne volonté, tous se dirigeaient vers le même précipice en accélérant le pas. La sonnerie de son téléphone le sortit du coma. Instantanément, il rejoignit la foule anonyme des forçats du travail. Un de ses vendeurs lui soumit un problème. Il prit une décision et annonça son arrivée prochaine au magasin. Il était de nouveau sur les rails. Il ne garda de ce moment de doute qu'une vague amertume pendant quelques jours. Un arrière-goût quand il mangea sans plaisir un dessert trop sucré et pourtant fade dans un restaurant. Une légère fatigue morale quand un client fit un scandale pour une rayure imaginaire sur l'écran de son téléphone. Une crispation dans le cou quand il passa une partie de la soirée à consolider le bilan financier du mois de janvier sur son tableur. Quelques jours plus tard, il reçut un courrier à son domicile où il ne faisait plus que dormir et où plus personne ne s'occupait du ménage ou des courses. Il y régnait un désordre relatif et une couche de poussière superficielle qui n'était pas encore gênante. Anthony n'y recevait personne. Il décacheta l'enveloppe avec soin et en sortit la missive qui n'était ni datée ni signée et qui ne comportait que quelques lignes sans bonjour ni formule de politesse. Si ton mode de vie n'est pas généralisable et que ça t'indiffère, c'est que tu penses mériter plus que tous les autres ce confort, et c'est horriblement prétentieux. Si ton mode de vie n'est pas durable et que ça t'indiffère, c'est que tu penses mériter, plus que tous les enfants à naître sur cette planète, ce confort. Et c'est non seulement prétentieux, mais en plus criminel contre l'humanité. Le papier était froissé par endroits, comme si la lettre avait été laissée sous la pluie. Il retourna la feuille, mais elle était vierge au verso. Il approcha l'enveloppe de ses yeux pour examiner le timbre et surtout le cachet de la poste. Elle était en provenance du département de l'Ardèche, comme il s'en doutait. S'il connaissait bien sûr l'identité de son auteur, son contenu ne le plongea pas moins dans une extrême perplexité. Il chassa immédiatement de son cerveau toutes les pensées superflues et artificielles qui avaient pollué sa journée. Cette livraison qui n'arrivait pas, cet article peu élogieux sur le service après-vente de son magasin qu'il avait lu sur un blog, ses difficultés pour trouver un vendeur pour remplacer la fille dont le congé maladie avait été prolongé d'un mois supplémentaire. Il relut chaque mot de la lettre et se demanda presque si ses critiques lui étaient vraiment adressées. Son mode de vie pouvait-il poser un problème à quelqu'un d'autre que lui, alors qu'il effleurait à peine l'idée, depuis quelques jours et sans oser le formuler comme cela, que son activité pouvait éventuellement nuire à sa propre santé et son équilibre mental. Marion l'accusait directement de crime contre l'humanité. Lui, au moins, pensait-il, n'avait pas une activité mortifère qui engageait la vie des autres, qui pouvait causer des plans sociaux ou des fermetures d'usines. Au contraire, plus il vendait, mieux les choses allaient pour ses employés directs, pour ses fournisseurs, pour les fabricants de matériel high-tech et donc pour leurs propres employés, leurs ouvriers. Le cercle était vertueux. Comment pouvait-on considérer une telle création de richesse néfaste pour l'humanité? Il posa la lettre et appuya son pouce et son index sur ses yeux pour chasser la migraine oculaire qui venait avec la fatigue et le stress. Il massa ensuite ses tempes et recoiffa ses sourcils du bout des doigts. En équilibre sur les deux pieds arrière de sa chaise, il se balançait lentement en espérant trouver une explication. La brutalité de la lettre était accentuée par l'absence de signature et de salutation. Elle avait voulu l'agresser, et il n'imaginait pas qu'elle pût le faire sans avoir eu d'abord le sentiment d'être elle-même attaquée. Il songea alors aux mots de sa mère à ce sujet. Marion s'inquiétait pour lui, soi-disant. Il l'avait éconduite, sans le vouloir, par son attitude surmenée. Peut-être. Il n'arrivait pas bien à s'en rendre compte. Mais n'avait-elle pas fait de même quand il l'avait accueillie à la sortie du bus à son retour du pôle sud? Elle s'en était excusée, c'est vrai. Son téléphone vibra. Un SMS d'Audrey, rien de personnel, une information sans intérêt sur une quelconque réunion du lendemain qui change d'horaire. Rien d'important. Il lança le téléphone sur la table et sa longue glissade faillit le faire tomber de l'autre côté. Il monta se coucher. En arrivant dans la chambre, une odeur désagréable parvint à ses narines. Il fouilla un peu partout et notamment dans la salle de bain, à la recherche d'un linge mouillé ou d'un gant de toilette oublié, moisissant dans un coin, mais c'était dans la chambre elle-même que se trouvait la source de la pestilence. C'était la plante de Marion qui se décomposait en dégageant une odeur putride. Des champignons blancs avaient attaqué la tige de la fleur, tandis que les brins d'herbe viraient au marron translucide. Il prit le pot de fleurs et l'évacua directement dans la poubelle, le gros conteneur à couvercle vert qui était dans la rue. Il ouvrit la fenêtre de sa chambre pour faire partir l'odeur, mais à mesure que s'échappaient les effluves malodorantes, un froid vif et sec entrait dans la chambre qui glaça les draps. Cette nuit encore, il dormit mal. Marion avait posté la lettre il y a 2 jours. Elle le regrettait par moments, mais de toute manière, il était trop tard pour avoir des remords. À 7 heures, sans doute l'avait-il déjà lue. Peut-être même l'avait-il comprise et ainsi fait une croix définitive sur sa personne. C'était l'objet de ses regrets. Elle n'avait pas l'intention d'être définitive. Elle ne souhaitait pas être blessante, mais au contraire l'ouvrir à une autre vision de la vie. Elle l'avait longuement observé l'été dernier. Elle avait été séduite par son apparence physique d'abord, sa taille, son jean qui moulait le haut de ses jambes. Mais rapidement, c'est son regard sur les choses qui l'a conquis. Sa naïveté qui contrastait avec sa grande intelligence. Sa défiance envers son père et ses questions qui le déstabilisèrent. Peut-être un reste d'Œdipe qui lui faisait voir en lui ce qu'avait dû être son père lorsqu'il s'apprêtait à entrer chez Airbus en tant qu'ingénieur en aéronautique, bien avant sa naissance. Avec son père, elle en avait discuté et elle ne comprenait pas. Lui qui était d'ordinaire si soucieux de réduire son empreinte écologique, lui qui défendait jour après jour l'idée qu'il fallait prendre soin de la Terre, faire attention à l'évolution du climat, il semblait encourager Anthony dans sa débauche de luxe et de voyages en avion, excuser tous ses errements, cautionner son comportement. « Il comprendra, mais ça doit venir de lui », se contentait-il de lui dire. Mais Marion ne pouvait se résoudre à attendre une hypothétique prise de conscience. Elle savait la fragilité des relations humaines, et surtout, elle savait par sa douloureuse histoire familiale que le temps pressait, toujours, et qu'il ne fallait pas le laisser filer comme le sable entre les doigts. Cette nuit encore, elle dormit mal.